Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour,
Héloïse. Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir.
Ressemblez à mes parents? Ah non, pas du tout.
Aucune femme ne recourt au détecteur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.
Moulinex, libère la femme, libère la femme, libère la femme.
Vous aviez 20 ans.
Bah, qui on va fréquenter? Grand-mère?
Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont eu le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Héloïse et Marion et aujourd'hui, nous allons chez Arlette.
Alors, en Provençal, c'était Gramassi, perd tout l'amour qu'elle nous avait donné. Bon, notre phrase, ça me revient.
Je vais vous laisser toute seule en dans l'intimité.
Oui.
Parce qu'elle fait un petit interview.
Héloïse a rencontré Arlette dans sa maison de Gina Servi en Provence. Assise dans son fauteuil, elle lui a raconté sa vie, aussi imprévisible et violente que le Mistral les jours où il souffle. La vie d'Arlette est comme un roman de Zola. On se fait emporter par son histoire sans y prendre garde.
Moi, je suis née ici, dans cette maison, le 27 septembre 34, je suis donc 85 ans. J'ai deux sœurs et un frère. Mais ma maman est morte quand on était tout petit. Moi, j'avais 4 ans. C'était en 39, la déclaration de la guerre.
Elle est décédée de quoi?
J'ai jamais trop su. Jamais trop su. Mon papa ne travaillait pas beaucoup. C'est ma grand-mère qui habitait cette maison, qui nous a pris chez elle pour nous élever. Mais elle venait de soigner son mari pendant 10 ans, donc il était sur le brancard, sur la soignée. Avant, il n'y avait pas les infirmières, il n'y avait personne. Elle s'est un peu épuisée. Elle a pris 4 enfants quand ma mère est morte, parce que quand ma mère est morte, elle a dit « Je ne veux pas qu'ils aillent à l'orpheline. »
Pourquoi votre papa ne travaillait pas?
Parce que il était maçon de métier, mais il allait à la chasse. Il faisait beaucoup de choses. Il n'avait pas un métier, je veux dire, sûr. Vous savez qu'il travaillait guère. Donc, il n'était pas, en plus, prendre 4 enfants. Mais moi, je suis né là, dans cette maison. Les femmes, elles accouchaient à la maison. En plus, il n'y avait pas de commodité, il n'y avait pas les voitures, il n'y avait rien. Mais ma grand-mère, comme elle était fatiguée, elle avait le cœur un peu malade, au bout d'un an, elle est morte. Quant à ma grand-mère, j'étais à l'école et on était dans la cour et c'est un qui n'allait pas à l'école, je ne sais pas pourquoi, là, un petit. Il vient à la grille puis me fait « Arrête, viens, viens !» Il me dit « Oh, ta grand-mère, elle est morte, hein, tu vas aller à l'orpheline. Hein. » Parce qu'avant, ça se disait tout dans le village, hein, tout le monde était au courant de tout. Et le directeur, il m'a attrapé. Il m'a dit « Pourquoi tu veux te sauver ?» J'ai dit « Je ne veux pas aller à l'orphelinat, je ne veux pas aller à l'orphelinat. » Mais pourquoi tu... Alors je lui dis « Ben tel, je ne me rappelle plus son nom. » Il dit qu'on va nous mettre à l'orphelinat. Mais non, n'écoute pas ce qu'il dit. Alors une fois, une deuxième fois, j'ai voulu encore me sauver. Mais on m'a encore rattrapé. Finalement, le directeur, il appelle mon père, il lui dit « Vous savez, votre fille... » Elle, ça fait 2 fois qu'elle essaye de se sauver parce qu'elle ne veut pas aller à l'orphelinat. Et mon père dit « Ah, mais non, mais de toute façon, on ne les mettra jamais à l'orphelinat et on ne les séparera pas. Ils resteront tous les 4. Je ne veux pas qu'on les sépare. » Et donc, mon père, il a dit « Moi, je ne peux pas m'occuper des 4 enfants. C'est pas possible. » Et une tante qui habitait un peu plus loin dans le village, sur la place, là, avec son mari. Ils n'avaient pas eu d'enfants. Alors, ils ont fait un conseil de famille, ils ont dit, mon père dit, je ne veux pas qu'ils aillent à l'orphelinat, je ne veux pas qu'on les sépare. Ils ont dit comment on fait. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les assistantes sociales, ils s'étaient mis au milieu, ça se passait tout en famille. Alors, mes oncles, ils ont dit, on n'a qu'à les garder. Mais comment on va faire? Juste la guerre venait de se déclarer. Alors, l'oncle qui habitait ici, il était cantonnier. Cantonnier, c'était les employés de mairie qui balayaient, qui... Lui, il était sur les routes. Il a dit, moi, il y aura ma paye. Vous, en étant paysan, il y aura toujours de quoi manger, parce que on avait les poules, les cochons, les lapins, les légumes, on avait tout. Et l'oncle ici, il a dit, je vais aider ma sœur et mon beau-frère à élever les quatre enfants. Donc, il faudra que je participe un peu, que je donne... Alors lui, il s'est jamais plus remis avec personne. Il est resté toujours avec nous. Et ma tante qui habitait là-bas, sur la place, mais que c'était tout petit, elle a dit, ben, on va venir habiter ici. Mais ici, c'était une vieille maison, hein, c'était pas comme maintenant. Donc, mon oncle et ma tante, ils sont venus habiter ici. On habitait pendant tout le temps, mes deux oncles et ma tante. C'est eux qui nous ont élevés. On a été super heureux. Hein. On n'a jamais manqué de rien. Pas de manger, parce que on avait de quoi, hein. Seule chose, comme c'était pendant la guerre, comme tout le monde, on n'avait pas trop de chaussures. On n'avait pas trop des habits. On n'avait pas trop de viande. Mais nous, on avait des lapins, on avait des poules, on avait des cochons. Mais on n'avait pas trop de viande de boucherie. Enfin, il se débrouillait, mon oncle. On avait toujours un peu. Alors, mon père, comme il travaillait guerre, il n'a jamais trop donné d'argent à mes oncles et tantes. Et comme chaque fois, il y avait un peu des histoires, ils se disputaient, parce que ma tante lui disait quand même, tu pourrais travailler un peu plus, tu pourrais donner quelque chose. Il a fait maçon, il s'est fait employer par un entrepreneur d'ici. Il était sur une toiture à côté de l'église, là. Un jour de grand vent, il est tombé, il cassait les deux jambes. Donc, il était tout seul dans sa maison, là-haut. Et c'était nous, il appelait par la fenêtre, « Arlette, Fernande !» Alors, on prenait un peu de ce qu'on avait, on allait lui porter à manger. Bon, il y avait une voisine qui allait un peu. Donc, il n'avait jamais de sous. Après, quand il a commencé à voir, mais ça met au moins 2-3 ans avant qu'il puisse marcher et tout, il venait le soir. Alors, il s'asseyait. On était une petite cuisine là. Alors il fallait tout fermer pour les Allemands, un peu dans le noir, juste la petite lampe là, qui sont sur la cheminée, là, à pétrole là, pour pas faire beaucoup de lumière, c'était défendu. Et des fois, quand c'était un peu tard, ma tante lui disait, allez Bernard, va chez toi, les petits ont sommeil, ils se couchent, et nous on va se coucher parce que nous on se lève demain pour aller travailler. Toi tu travailles pas, mais nous... Et mon père, j'ai encore un peu, il restait. Finalement, ils se sont chamaillés à cause de ça. Et ils lui ont dit, écoute Bernard, tu viens plus. Tu viens plus, tu déranges tout le monde, tu viens plus. Alors il nous appelait de dehors, tapait à la porte, alors on sortait sur l'escalier. Ça, c'était terrible. La guerre, on a vu des avions qui lançaient des tracts. C'était des tracts contre les Allemands pour les résistants. Et pour la population, pour donner des conseils. Et je me rappelle, j'étais allé en haut sur la colline. Matin, quand je suis arrivé, mais où tu étais? Ben, j'étais allé chercher les papiers pour que tu puisses lire. Mais tant pis pour les papiers, tu te rends compte si tu avais attrapé. Je dis, c'est pas moi qui cherche. Il m'aurait rien fait. On n'a pas vu beaucoup de bombardements, il n'y en a eu que deux. Un sur Binon, un, je crois, en bas dans la plaine. On n'a pas eu beaucoup de bombardements. Par contre, quand les Allemands sont rentrés dans le village, on les voyait courir là. Mais là, on n'avait qu'une petite fenêtre, c'était pas comme ça. Alors, on se mettait, il y avait une petite marche, on se mettait sur la marche pour regarder les Allemands. Parce qu'il y avait beaucoup de gens de la résistance ici. Et donc, il traquait les résistants. Bon, ça fait que la guerre, elle s'est passée à peu près comme ça.
Et la libération, vous en souvenez ?
La libération, je me rappelle qu'il était rentré des compagnies de Spahi et de Noir. Et je me souviendrai toujours, hein, il était à cheval, il avait sa belle cape rouge et or. Ils avaient les Spahiens, les culottes pareilles. Et je disais, oh, dommage que je ne suis pas assez riche, que je n'ai pas d'appareil à photo, je l'aurais photographié, je disais. Tellement j'avais trouvé que c'était beau. Et après, je me rappelle, je faisais toujours des dessins. Je représentais toujours ce cavalier en Spahi, habillé avec sa cape rouge et or. Alors on est allé à l'école, on a passé le certificat, toutes les trois filles, que le garçon qui n'a pas passé. Et à 11 ans et demi, je passais le certificat. Alors on n'avait pas de voiture. On était à du village, on n'était que deux parce que les autres, comme ils étaient plus riches, j'étais allé au collège. Mais pour ça, il fallait payer avant. Hein. Maintenant, je ne sais pas s'ils payent ou pas. Mais là, ma tante, il ne pouvait pas. Hein. Donc, on était resté jusqu'au certificat ici. Pour pouvoir aller passer le certificat, ça se passait à Riens. C'est un monsieur qui a dit, ben, je vous mène, parce que nous, on avait un cheval, mais il n'allait pas vite. Il a dit, moi, mon cheval, il va vite. On est allé avec la charrette à Riens, 12 km pour aller passer le certificat. On l'a eu tous les deux. Et oui, je suis revenu, j'étais contente. Alors, je me rappelle qu'on était derrière sur la camionnette. Et puis, la maman des garçons, elle me dit, mais on dirait que tu es triste, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, je dis, tu n'es pas contente, tu as réussi. J'ai dit, oui, j'ai réussi, mais ça veut dire que je vais partir de la maison. Elle me dit, pourquoi ? J'ai dit, ben, parce que maintenant, il faut que j'aille travailler. Je veux plus à l'école, il faut que j'aille travailler. Je suis contente d'avoir réussi, mais je pense que maintenant, je n'irai pas à la rentrée, je n'irai plus à l'école nulle part. Alors l'instituteur, il est venu et il a dit à mes oncles et tantes, vous savez, elle travaille bien, elle pourrait aller, je vois qu'elle peut très bien continuer l'école. Ma tante a dit non, l'aînée, elle n'est pas allée. Si on envoie une, on va faire des jalousies. Je parle contre moi, il lui disait l'instituteur. Alors finalement, ma tante lui dit pourquoi ? Elle dit, ben, je vais vous dire que si vraiment elle doit aller travailler, moi je suis nommée à Solistouka. Il nous faut quelqu'un arriver là-bas pour garder le dernier, le bébé. Ils avaient une fille, un garçon et le petit bébé. Alors, si vous voulez, on la prend avec nous pour garder le bébé. Donc, je suis parti avec cet instituteur.
À 11 ans ?
À 11 ans et demi, j'avais. 11 ans et demi, parce que on passait le certificat à 12 ans, mais moi, je l'ai passé en juin et j'étais de septembre. Je n'avais pas encore mes 12 ans. Je suis parti de la maison. Alors, je me rappelle, il n'y avait pas de valise à ce moment-là. C'était un carton. On m'avait mis mes affaires dans un carton. Encore, c'est un carton un peu en contreplaqué que cet oncle qui était bien ami avec le menuisier de Saint-Julien qui lui avait dit « Fais-moi une boîte pour la petite pour mettre les habits. » Là, j'ai parti avec cette boîte en contreplaqué. Alors, j'étais pas mal, j'étais bien parce qu'il me connaissait, je le connaissais, il m'avait vu toute petite. Lui, après, il a été détaché de l'enseignement, il était souvent parti. Donc, bon, ben, je ne pouvais pas venir, je venais qu'une fois par an. Et ça, je trouvais long. Et il me donnait, je ne me rappelle plus si c'était 5 francs à l'époque, par mois. Et ils avaient dit à ma tante, on lui donnera une petite pièce par mois, mais on l'habillera. Je n'ai jamais trop habillé, même fait. Et ils m'ont eu donné des choses que leur fille, qui était plus jeune que moi, qui avait 2 ans de plus que moi, mais qui était plus grande que moi et plus costaud, quand les choses ne lui allaient pas, me passaient.
Donc une fois par an, vous reveniez ici voir votre tante, vos oncles ?
Oui, je venais passer normalement la Noël. Alors, je gardais mes petits sous, et il y avait une épicerie là où j'allais chercher, des fois j'allais un peu aux commissions là-bas. Il y avait une petite poupée, des petits livres de contes. Alors je disais à la dame, je vous donne un peu pour arriver à avoir le livre et la poupée. Je voulais porter un livre à ma sœur qui était plus jeune, la poupée et le livre qui servait pour les deux. Parce que le soir, pendant la guerre, comme il fallait qu'on faisait la veillée là, dans la cuisine, c'était qu'une pièce, hein. On faisait la veillée et on triait les pois chiches, les haricots secs, on les triait pour les Allemands. En étant agriculteur, il fallait donner un temps de kilos qu'il fallait porter à l'Amérique, on était imposé. Seulement, il fallait les donner triés, qu'il n'y ait pas de pierre. Et donc, moi j'avais le livre de l'école, la Tour de France par deux enfants, et tous les soirs, je lisais une page, et mon oncle, il disait, il était couché, il y avait une banquette, il était couché, il ronflait tout le temps. Il disait, oh, c'est pas possible qu'il ait écrit ça sur les livres, elle l'invente. Et ma tante disait, mais non, elle n'invente pas, elle le lit. Elle le lit. Et ça lui plaisait. Alors tous les soirs, allez, tu lis une page. C'est pour ça qu'on était heureux. On a eu une enfance heureuse. Vraiment, on ne pouvait pas être mieux. Hein. À Noël, je suis arrivé, et au pied du sapin, j'avais dit à ma tante, dans la nuit, tu mettras au pied de sapin. Quand ils ont vu la poupée, le livre, ils étaient contents et tout. Et moi, j'étais encore plus contente qu'eux. Après, de Solistouka, le papa de l'instituteur est décédé. Ils habitaient La Valette. Ils ont quitté Solistouka, il a fait son changement pour aller habiter à La Valette. Et je trouvais long, j'y suis resté trois ans, je ne sais plus combien.
Ils étaient gentils avec vous ?
Lui était très gentil. La grand-mère, parce qu'il y avait la grand-mère, elle avait le cœur fatigué. Il fallait que la nuit je dorme à côté d'elle, elle me réveillait toute la nuit. Pour lui passer le bassin, pour remonter l'oreiller, pour... Je couchais dans une petite pièce à côté de sa chambre, mais toute la nuit. Le dimanche, je ne me laissais jamais sortir. Il y avait le stade, juste en haut, des collègues que je voyais là qui passaient, qui disait, elle ne peut pas venir avec nous, Arlette. Ah non, elle ne peut pas. Alors elle me disait, mais ramasse les feuilles dans le jardin. Je recoupe ça, coupe ça. Finalement, j'ai dit, non, je ne suis pas bien. Alors j'ai dit à ma tante, non, je ne veux plus aller, je reste ici, j'irai travailler au champ, j'irai. Alors oui, mais là, quand même, au moins, tu étais bien tout le temps. J'ai dit, non, je n'étais pas bien. Et mon oncle qui a dit, elle est partie volontiers. Si elle dit non, c'est qu'il y a quelque chose, il ne faut pas la forcer. Alors, quand le monsieur, l'instituteur, il est revenu, deux jours après, je m'étais caché, il y avait la petite chambre là, avec une porte, je m'étais caché sous le lit. Le mari à ma tante, il avait vu que j'étais rentré dans la chambre. Il rentre, il ne m'a pas vu, il a compris que j'étais dessous. Et quand l'instituteur est rentré, alors ma tante lui dit, ben, je ne sais pas, elle n'est pas là, elle était là, tout d'un coup je ne la vois plus. Alors mon oncle dit à ma sœur, va voir si elle n'est pas sur la place. Et quand ma sœur me dit, non, j'ai cherché partout, j'ai demandé une telle collègue à tout le monde. Non, personne ne l'a vue, elle n'y est pas, je ne sais pas où elle est. Alors il a attendu un peu, regardé sa montre, il a dit, bon, ben, je vais aller voir moi un peu, il est allé. Il a dû demander sur Romain, il est revenu, il a dit, ma foi, personne ne l'a vu. Mon petit sac que j'avais, il était préparé, là. Alors il a dit, écoutez, je suis obligé de partir et je reviendrai la chercher dans quelques jours. Et mon oncle lui avait dit, oh, partez, on verra bien, on se débrouillera, partez, c'est votre heure, il lui a dit. Alors, quand il a été parti, qu'il a passé la porte, il dit à ma sœur, va doucement jusqu'au coin, et quand il sera parti en voiture, tu reviens. Alors ma sœur, elle est allée, quand elle l'a vu partir, elle est revenue, il est parti, oui, il est parti. Il vient dans la chambre, il me dit, allez, sors, tu peux sortir, il est parti. Je crois que des oncles et tantes comme ça, il ne doit pas y en avoir pareil sur la terre, je crois pas.
Arlette commence à travailler à 11 ans comme bonne, sans avoir le droit de sortir, de se faire des amis et de voir sa famille plus d'une fois l'an.
Elle a une enfance tronquée, même si pleine d'amour, comme elle me le répète sans cesse. Après avoir quitté la famille de l'instituteur, il faut nécessairement reprendre un travail.
Quand j'étais chez l'instituteur, un jour, il nous mène à la mer, à l'Almanara, là-bas, je crois. J'ai dit, j'ai pas de maillot, je me baigne pas, j'ai pas de maillot. Et on était allé avec des cousins, là, eux. Elle me dit, ben, je te prête celui de ma fille. Non, je veux pas, je veux pas. Et elle s'était mise en colère. Elle m'a dit quand même, elle était tuée quand elle veut pas, elle veut pas. Je voulais pas lui dire, je veux pas, parce que je m'étais aperçu que j'étais indisposée, mais personne ne m'avait jamais rien dit. Seulement, j'avais rien pour... j'avais pas de protection, j'avais rien. Alors j'avais des serviettes de toilette que j'avais coupées et que je lavais en cachette et que j'étendais en cachette. Après ça, quand j'étais montée, ma tante, elle me disait, tu n'as pas quelque chose à m'annoncer, tu n'as pas... Alors j'ai dit, ah oui, comme si c'était anodin. Ah oui, j'ai eu des règles. Ma tante me dit, mais comme ça, là, ça... Mais ils t'ont acheté des machines et tout. J'ai dit, non, comment tu as fait? Mais j'ai coupé une serviette. Alors ma tante m'avait préparé un paquet avec... J'étais reparti comme ça. Et après, alors ici, ma tante, elle connaissait une dame de Manosque qui a dit, ah ben moi, si vous voulez, j'ai Madame Millot, qui était le maire de Manosque. Sa dame, elle veut une petite de compagnie pour un peu être avec elle, tout ça. Alors, j'étais allé là-bas, à Manosque. Je suis resté quelques années. Non, je dormais avec. Le car, le dimanche, je venais, là. Je prenais le car de l'après-midi, là, qui venait, je repartais le lendemain matin.
Et vous n'avez jamais regretté de ne pas avoir continué l'école ?
Si. Parce que moi, je voulais toujours faire cette époque-là. Sténodactylo. Après, je disais, il lui avait dit, l'instituteur, si vous voulez pas, mettez-la au moins dans le centre d'apprentissage, qu'elle est, elle aime beaucoup la couture, parce qu'on faisait des petites poupées en chiffon, on n'avait pas de poupées. On se fabriquait les poupées en chiffon, on faisait les habits. Il y avait une couturière un peu plus bas, nous donnait des petits bouts de tissu, on faisait les habits. Elle aime beaucoup la couture, mettez-la au moins dans le centre d'apprentissage. Et non, mais il faut payer. Mais je vous fais les papiers pour qu'elle ne paye pas, pour que vous n'ayez pas à sortir d'argent. Et ma tante, elle a dit, non, il faudra, et on ne peut pas. Elle ne voulait jamais rien. Après, de Manosque, je suis descendu. Là, il y avait un docteur de Marseille, chirurgien, qui avait une villa ici, et qui voulait quelqu'un pour ouvrir la porte, pour recevoir les clients. À cette époque-là, on ouvrait la porte, on faisait rentrer les clients, pas comme maintenant. Alors j'étais là, j'ouvrais la porte, je mettais la table, je faisais les commissions, ils m'envoyaient aux commissions. Et bien là, je devais avoir peut-être 16 ans. Là. Je mettais de côté parce que j'avais toujours été habitué à pas trop dépenser. Je gardais un petit peu mes sous. Je me rappelle, je m'étais fait un carnet de caisse d'épargne. Ce docteur, après, il a pris la retraite, il a quitté Marseille, il est venu habiter ici à Gina. Et moi, je voulais pas remonter ici, j'avais pas de travail. Et la boulangère où j'allais tout le temps, elle me dit, Arlette, t'es, si tu veux, j'ai une cousine, elle veut quelqu'un pour 3 mois, pour la saison. Elle avait 2 filles et un garçon, et la patronne, elle m'avait pris tellement en bonne, elle voulait toujours que je sois avec elle. J'allais avec elle faire les courses. Je ne faisais pas de ménage, je ne faisais rien. Il y avait des chambres à faire, elle envoyait sa fille, elle envoyait l'autre. Et moi, ah non, on doit aller après-midi chercher les gâteaux, on doit aller après-midi chercher, on doit aller ce matin chercher les légumes, on doit... Et donc après, quand je suis parti de là, je suis venu chez Rinaldi, il était capitaine 13 de rugby. Je suis venu chez eux garder leur petite.
Et c'était où ça?
Alors nous, on logeait au-dessus de la porte d'Aix, mais eux, les parents, les grands-parents, ils avaient le bar sportif où il y avait tous les rugbyman à la bourse là. Et donc tous les midis, d'en haut, avec la petite, je descendais à pied jusqu'en bas parce que j'allais dîner en bas chez eux. Parce que eux, en haut, ils n'avaient rien pour faire à manger. Alors j'allais manger en bas avec eux. Et là, j'ai connu mon mari qui faisait le rubis. Il était cheminot, mais le week-end, il faisait les matchs de rugby. Alors je me rappelle, il s'était foulé le genou. Et je l'avais accompagné jusqu'au tram, parce qu'il boitait, il ne pouvait pas marcher. Et les autres, ils se moquaient de lui. Et moi, j'avais dit, oh, le pauvre, il ne peut pas marcher, je vais l'accompagner. Mais après, il venait souvent. Et moi, je jouais au baby-foot avec la petite, avec les rugbymages. On allait à tous les matchs. Et lui, après les matchs, ils venaient tous au bar de contre sportif. Ça fait que j'étais toujours avec eux. Toujours avec les rugbymen. Et mon mari l'a dit un jour, hein, Monsieur Rinaldi, tu sais, moi, Arlette me plaît, je voudrais sortir avec elle. Alors, il y en avait un autre. Il lui a dit, bon, écoute, si c'est pour te marier avec, c'est bon. Si c'est pas pour te marier, tu dégages. Parce qu'il y en avait un autre qui me courait derrière. Mais je préférais mon mari. Mais il était toujours, alors l'autre, ils se faisaient la chasse tous les deux. Un peu avant, ça se passait pas comme maintenant, les choses. Il a dit, elle est sous ma responsabilité, elle n'est pas encore majeure. Alors,
est-ce que vos tantes ou les femmes qui vous ont accompagné, vous avez parlé de sexualité ou...
Non, parlait de rien. Beaucoup...
Personne.
Personne. Parlait pas. C'était tabou, ça, personne ne parlait. J'ai dit, oh ben ça fait rien, je monterai un peu, Gina, un peu. Je voulais venir un peu là, un peu rester avec mes collègues, un peu. Et mon mari me dit, ah non, si tu montes là-bas, après tu reviens plus. Tu... À cette époque-là, on n'avait pas de... il n'avait pas de voiture lui non plus, il n'y avait qu'un quart de Marseille qui montait. C'était une expédition pour venir en quart. Hein. Ou alors il fallait prendre le train à Manosque, et après de Manosque pour venir ici, où il fallait faire le stop, parce que le quart qui faisait la chose il était déjà parti. Alors non, non. Alors, sa sœur, elle me dit, ben, viens habiter chez nous, en attendant, et vous faites les papiers, vous vous mariez. Oh, j'ai dit, si vite, comme ça, c'est...
Mais attends, mais vous étiez amoureuse de lui?
Ben, oui, je sortais le week-end, on allait, le dimanche, il me laissait sortir, hein, même le soir, si je voulais. Quand il rentrait, il me disait, si tu veux aller au cinéma, vous étiez gentil, très gentil. Alors j'allais au cinéma avec mon mari, on allait à la plage, on allait... Alors mon mari, oh non, on n'a qu'à se marier. Oui, ça faisait 3 mois, ça. Alors je lui ai dit... Je voulais attendre un peu. Seulement, je ne pouvais pas rester chez la belle-sœur tout le temps qui m'avait hébergé. Alors j'ai dit, oui, mais moi je voudrais aller me marier, j'ai une servie. Alors eux, en bas, oui, mais comment on fait? On ne peut pas monter tous. Donc, on a fait tous les papiers pour en bas, et je me suis mariée en bas. Seulement, j'étais pas majeure. J'avais 19 ans. Il a fallu que mon père soit présent. Et que ma belle-sœur ne pouvait pas recevoir tout le monde, elle a dit, ben, il n'y a que ton père qui va descendre, me commander un peu, hein, la sœur. Elle a dit... Ton père vient avec tes soeurs, frères, soeurs et tes oncles, ben après, vous monterez là-haut les bras. Donc, pocher, j'ai pas eu mes oncles et tantes pour mon mariage. Et sur les photos, ils disent, mais toi, t'as pas l'air contente sur ton mariage. C'est pas que j'étais pas contente de me marier, j'étais pas contente parce qu'ils étaient pas là, eux. J'avais mon père, mais j'aurais préféré que ce soit eux. À cette époque-là, tu commandais pas trop, hein.
Et vous étiez heureuse de vous marier?
Oui, là, c'était bien, c'était... Voilà. Ça fait qu'on a fait un mariage, on avait guère de sous, parce que mon mari travaillait à l'atelier au chemin de fer, mais il était guère payé. Et quand mes beaux-parents sont revenus, ils étaient partis en Tunisie pendant 2 ans quand ils sont revenus, et bien comme on n'avait pas d'appartement, on avait été avec eux, jusqu'à ce qu'on ait ma fille, l'aînée. Et quand on a eu ma fille, ben, c'était compliqué pour rester avec les beaux-parents, pas de place. Ils s'étaient construits des appartements à Montolivet, et donc on avait pris un F2 Mais après, on était à l'étroit, parce qu'après, il y a eu le second, après, il y a eu le troisième. Quand il y a eu le troisième, on a changé, on est allé dans un grand appartement. Je me suis mariée en 54, et Hélène est née en février 54, Hélène est née en mars 55. Après, il y a eu Jean-Marc, et après, il y a eu Michel, le troisième. Là-bas, c'était le Molotov. Vous n'avez pas connu ça. C'était les gros carrés. Il fallait laver tous les jours. Les carrés, on les emmaillotait. Par-dessus, il y avait un autre carré qu'on pliait comme ça en long. Et par-dessus, en molotov, des carrés en molotov. Et on les entortillait. Ils étaient ficelés là-dedans comme des saucissons, les pauvres. Hein.
Et c'était comment Marseille à cette époque?
Ben moi, je me plaisais bien. On allait, parce qu'on habitait à côté le boulevard Longchamp, au Chartreux. On allait avec les landaus, par Longchamp, là-haut. Il y avait les animaux, là, encore. Alors, on portait le tricot. On était peut-être une vingtaine de femmes, là. On s'asseyait, il y avait des bains, on tricotait. On restait au soleil une heure ou deux, ou l'été à l'ombre. Après, on montait en haut où il y a la cascade, là. Parce que nous, on était côté Chartreux. Alors, souvent, on montait sur le plateau. On allait leur faire voir les petits, l'eau, tout ça, voilà. Et après, à Montolivet, alors c'était la campagne, là, ils étaient dehors, hein, tout le temps, c'était pas habité comme maintenant, hein. C'était que des pins, que des prés, que des... Alors mon mari, là, il montait en grade. Et pour monter en grade, il fallait qu'il apprenne un bouquin gros comme ça. Et tous les soirs, je lui faisais répéter les signaux, tous les soirs. Je savais le bouquin autant que lui. Des fois, sans regarder, je le faisais réciter. Ça s'appelait passer la barre, ça. Après, quand il a été mécanicien, gagnait mieux, c'était mieux.
Et vous, vous n'avez jamais travaillé après?
Quand ils ont été un peu plus grands, je voulais aller au cours du soir, qui avait boulevard Longchamp. Toujours pour aller faire sténodactylo. J'avais ça dans la tête. Et mon mari m'a dit non, moi, parce qu'à cette époque-là, ils avaient les machines au charbon. Et il fallait mettre le charbon dans les locomotives. C'était pénible. Hein. Ils montaient Marseille-Dijon. Hein. Ils redescendaient. Ils étaient fatigués quand ils redescendaient et ils se couchaient. Et moi, je préparais 3-4 repas pour emporter. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas toutes les cantines, tout ça. Il fallait qu'ils portent les repas, les bouteilles de café, tout ça. Alors il me dit, il faut préparer les repas, il faut que tu t'occupes des petits, les mener à l'école. Moi, quand je dors, le dernier qui est tout petit, s'il pleure, ça me réveille. Alors quand il pleurait, je le berçais. Alors je lui disais, mais c'est le soir. Mais pendant que tu vas là-bas, qui garde les petits? Ben, je dis à la voisine qu'elle garde un peu. Non, non. Et puis, si tu vas travailler, comment on va faire? Il faut faire garder les enfants. Ça va nous coûter plus cher et qui me fera les paniers? Ma fille, c'était plus. Mère et fille, c'est toujours un peu plus compliqué qu'avec les garçons. Surtout que, comme mon mari était souvent parti, c'était moi à la maison qui était obligé hein, de prendre toutes les directives. Hein. Malade, pas malade, école, pas école. Alors ma fille, des fois à l'école, était super douée. Elle connaissait un garçon qui voulait faire manquer l'école pour aller à la plage, pour aller. Alors, c'était moi toujours qui grondais, qui... Et après, quand je disais à mon mari me disait, qu'est-ce que tu veux? Moi, je rentre, je les entrevois, pour le peu que je les vois, je ne vais pas les gronder. Alors, Hélène disait, papa, il ne m'a jamais dit un mot. C'est toujours moi qui ai grondé, qui ai mis... Et qui essayait de les faire marcher droit et tout. Les garçons, pareil, selon Jean-Marc, si je voyais que le garçon ne sort pas avec lui, c'est pas recommandable, il est pas... Il fallait toujours que je fasse la guerre, j'étais obligé de commander. Hein. C'était comme ça. C'était un peu difficile parce que ces jours de repos, comme il était toujours sur parti, ces jours de repos, il voulait rester à la maison. Mais nous, les jours de repos, même avec les petits, on voulait un peu aller, un peu sortir, un peu. Pour ça que j'avais voulu passer le permis, parce que quand il était parti, Le soir, quand les petits sortaient de l'école, on allait à la plage un peu. Et le week-end, quand il n'y était pas, on allait au Prado, on n'allait pas loin. Hein. Mais il n'y avait pas les téléphones à cette époque-là. Une fois, je me rappelle, il était rentré avant, et ben, il ne nous avait pas trouvés. Mais quand je partais, je laissais toujours un mot sur la table. On va à tel endroit. Alors il était venu nous rejoindre, je me rappelle, sur la plage. Il a dit, oui, mais on rentre de suite, moi je dois me coucher, j'ai sommeil. C'était un peu pénible. Alors chaque fois, il disait, moi j'ai 2000 voyageurs derrière, je n'ai pas envie qu'il m'arrive un accident. Il était plus à son travail qu'à la maison. Et après, quand il arrive, il était fatigué. Alors souvent, on restait à la maison, on n'est pas beaucoup sortis. Hein, pendant tout le temps, on n'est pas sortis beaucoup.
Et vous aviez une vie amoureuse tous les deux ou...
Si, un peu, mais enfin, c'était toujours... oui, fatigué, il a fait... Quand on l'a perdu les oreilles, il est resté 2 mois. Après, il a vu quelque chose, je ne sais pas quoi. On croyait qu'il avait quelque chose de foi, il est resté 3 mois à Sainte-Marguerite. J'allais tous les jours, quand j'avais mené les petits, que je m'étais levé à 6 heures pour vite faire ma confection, j'allais le voir à Sainte-Marguerite, heureusement que je conduisais là. Hein. Parce qu'il fallait que j'y aille tous les jours, hein. Sinon il n'était pas content. Hein. Après je dis, ah, je m'en vais vite, ça va être 5 heures, les petits vont sortir de l'école.
Quand vous étiez à Marseille, vous veniez à Gina de temps en temps voir vos oncles et tantes ?
Ben, quand on avait la voiture, oui. On gardait nos congés pour venir les aider à faire les vendages. Ils étaient vieux, peu cher. On venait, on gardait tous nos congés. Il avait garde-congé à cette époque-là. On n'avait que 15 jours. Hein. C'est plus comme maintenant, un mois. Mais on les gardait pour venir les aider.
Et ça vous manquait, Gina Servi, quand vous étiez à Marseille ?
Ouf, pas trop. Après, j'étais bien, j'avais mes commerçants, j'avais les boutiques. Je partais de Montolivet des fois, quand les petits ils étaient plus grands, là, qu'ils étaient à l'école. Je partais à 2 heures quand mes choses étaient prêtes. Je faisais tout le boulevard Longchamp, toute la rue Saint-Pierre. J'avais des talons hauts comme ça. Je faisais toutes les boutiques pour repérer ce que je m'achèterais. Alors je regardais, après je revenais toujours avec quelque chose. Et au retour, je prenais le train parce que j'avais des ampoules pleines les pieds. Tellement j'avais marché. Pardon, hein,
pas
je regarde 2 minutes.
Mais si vous voulez décrocher, allez-y. Hein.
Oui, allô ?
Allô, c'est Denise, vous avez essayé de m'appeler ?
Ah, Denise, merci, j'ai eu ton fils, il m'a apporté tout ce qu'il faut, merci.
D'accord.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
En écoutant Arlette parler du Marseille de l'époque, on l'imagine rue Saint-Féréol faire du lèche-vitrine avec ses talents. Arlette est comme le Mistral, déterminée. Elle dit qu'elle veut travailler, elle travaillera.
Ma belle-sœur travaillait dans la Croix-Rouge. Et quand j'allais, la directrice, un jour, elle dit à ma belle-sœur, « Mon Dieu, votre belle-sœur, elle est toujours bien, parce que j'étais toujours en pantalon. » Costume blanc, toujours bien maquillé, toujours. Alors elle disait, mon Dieu, votre belle-sœur, on a besoin de quelqu'un à l'accueil, elle s'en va, la dame. Vous voulez pas lui demander si elle voudrait pas travailler à l'accueil, je la vois bien à l'accueil, elle ferait bien, pour toujours souriante, toujours. Ma belle-sœur a dit ça à mon mari. Alors on lui dit, oh, ne va pas y mettre ça dans la tête, elle veut, non, non, non. Alors j'ai dit, quand même, Guy, je vais avoir une paye, j'aurai une retraite. La retraite, je te la ferai, moi, tu n'as pas besoin. D'ici là, peut-être, il n'y aura pas de retraite. Donc, il n'a jamais voulu. Mais moi, je voulais faire quelque chose. Alors, j'ai fait un peu représentation de beauté. J'allais chez des amis, des clientes, je leur présentais les produits de beauté, je faisais des commandes de produits de beauté. Ma belle-sœur, elle était couturière. Elle faisait des robes de mariée, elle faisait tout. Et je l'aidais avec elle. Il y avait des choses minutieuses à faire, les ourlets, des choses. J'allais toujours l'aider. Et donc, elle faisait la confection pour un de ses bonhommes. Et un jour, elle me dit, Pétard, mon patron, il demande si je connais quelqu'un. Tu veux pas faire la confection avec moi ? J'ai dit, oui, je veux bien. On allait chercher un gros carton comme ça, de choses à tout couper, hein. tout prêt, tout... il fallait...
Juste coudre.
Juste coudre, assembler, piquer, assembler, faire les poches, faire les boutonnières, tout.
C'était pour du prêt-à-porter ?
Prêt-à-porter. Et ils avaient un magasin à la porte d'Aix, en bas. Donc j'ai fait de la confection pendant je ne sais pas combien.
Et là, vous étiez...
À la maison.
À la maison, et votre mari le savait ?
Ah oui, là il le savait.
Et vous lui avez demandé ou pas ?
Ah, je lui avais mis devant le fait accompli. Je lui dis, tu sais, tu veux pas que j'aille travailler dehors ? J'ai trouvé du travail à la maison. Mais tu n'en as pas assez à la maison. Alors j'ai dit, écoute, il faut que je fasse quelque chose. Je voulais avoir, dire que je gagnais un peu. Ça m'énervait de voir que je gagnerais.
Et là, vous étiez déclaré ?
Non.
Donc pas de retraite ?
Pas de retraite. Pas déclaré.
Jamais déclaré ?
Jamais déclaré. Et très peu payé. Hein. La robe, je ne sais pas combien ils nous donnaient, quand je vois... Un jour, on va chercher du fil, parce qu'il me fallait du fil. Pour... Et là où on allait acheter le fil, la mercerie, c'était juste en face de son magasin. Il me dit, tiens, regarde la robe que tu viens de faire. Quand j'ai vu le prix de la robe, j'ai dit, pétain, ils vendent la robe à ce prix et nous, ils nous donnent tant. Pas plus. J'ai dit, pétain, c'est un voleur. Hein. Enfin, il m'a dit, c'est toi qui as voulu travailler. Il m'a dit, c'est toi qui as voulu le faire. Bon, je l'ai fait, ça, pendant... plusieurs années. Hein. Ah oui, j'aimais la couture, ça me plaisait. Ça me plaisait. Seulement, je me levais à 5 heures du matin avant que les petits partent à l'école. Je cousais pendant une heure ou deux. Après, je les menais à l'école. Après, je revenais. Je préparais les repas pour mon mari qu'il fallait emporter. Et le soir, des fois, de 9h jusqu'à minuit, je terminais les robes. Alors, comme le soir, en piquant au premier étage, ça faisait du bruit dessous. Le soir, je me gardais pour faire les boutonnières, coudre les boutons, faire l'ourlet. Après, je me suis mis à porter les pantalons. Et eux, ils faisaient que des robes ou des jupes. J'en portais, mais moins. Oui, j'avais eu les mini-jupes pendant quelques temps. Mais après, j'avais commencé. Et quand on commence les pantalons, c'est dur pour se remettre après. Hein. Donc, puis, ces robes, elles ne me plaisaient pas trop. À dire. C'était pas trop mon genre. Moi, j'aimais un peu plus chic, un peu plus, un peu bien habillé, bien coiffé, bien là, je suis minable, là, si j'avais su, vous êtes venu là.
Ah non, vous êtes très très bien, là.
Mais je savais pas que c'est, j'avais pas bien compris que c'était aujourd'hui, je me serais un peu mieux habillée.
Non, vous êtes parfaite, vous avez le petit foulard, voilà. La petite veste, vous êtes très bien.
À cette époque-là, moi, j'aimais beaucoup... Donc j'aimais Sacha Distel parce qu'il était beau. Et Alain Delon, je parlais toujours que de Alain Delon, Sacha Distel. Mais après, mon mari aimait bien Brassens. À cette époque-là, moi, Brassens, je n'aimais pas trop. Par contre, quand j'étais avec le docteur, il était ami avec le directeur de l'Alcazar. Tous les samedis soirs, j'allais voir une opérette. Luis Mariano, tout ça. Alors ça me plaisait. J'aimais les opérettes.
Vous alliez danser ?
À Marseille, non, parce que, en plus, mon mari n'aimait pas danser. Il ne savait pas danser, il n'allait jamais au bain. J'étais toujours pris, toujours. Mais quand je montais ici, oui, alors, j'adorais danser ici.
Vous dansiez où ici ?
Ben, quand il y avait la fête du village ou quand il y avait le bar où c'était un cousin à nous, mettait des disques. On dansait comme ça. C'était la vraie fête du village. Maintenant, c'est. C'est plus que les commerces, les auto-tamponneuses, il n'y a plus que l'argent là maintenant.
Et avant ça ressemblait à quoi ?
C'était avant c'était, il y avait des manèges pour les petits, il y avait une chaise volante, je me rappelle. Mais après c'était beaucoup des jeux d'enfants, des jeux dans les sacs, les jeux de la sartane, de la poêle là, qu'on collait la pièce, qu'il fallait les courses, les... Il y avait beaucoup plus de choses, c'était... Et après, il y avait les concerts, l'apéritif concert. Il y avait 3 bars à cette époque-là. C'était des musiciens que les gens du village, les jeunes, faisaient la quête dans le village. Moi, je faisais la quête avec eux. On récoltait un peu des sous pour payer les musiciens. Il y avait le bal avant souper, commencé à 5h jusqu'à 7h30. Après, à 9h, le bal est recommencé jusqu'à 2h du matin. C'était pas comme maintenant. Maintenant, le bal, il commence à 10h30, 11h. Et ici, quand il y a la fête, 10h30, 11h, il commence le bal. Et puis, maintenant, c'est que des choses pour... Il n'y a plus les choses pour les vieux, beaucoup, là.
Vous, vous aimiez danser ?
Ouais, j'adorais danser. Alors il disait, t'as fait danser ma femme, viens lui faire faire une valse, qu'elle adore ça. Viens lui faire faire un passo doble, ça, le passo doble, c'était mon rêve. Je me régalais.
Et de revenir de Marseille à Gina, ça s'est bien passé ou...
Moi, c'était dur, ouais. C'est Jean-Marc, on va habiter Gina, on va habiter Gina, Jean-Marc. Et mon mari disait toujours oui, lui, il venait volontiers, parce qu'il allait chasser. Il allait à la pêche. La forêt, moi, marcher, la forêt, c'était pas mon truc. Basket, j'ai jamais mis de basket de ma vie. J'ai toujours eu que des talons, que des... même les pantoufles, ils me font un peu les talons. Hein. D'abord, pour la colonne vertébrale, je ne peux pas marcher pied. Avec les baskets, je ne peux pas, c'est pas assez beau. Jean-Marc, oui, qu'est-ce qu'on fait à Marseille? Maintenant, papa, il est à la retraite, on va à Gina, on sera bien à Gina. Mon mari, on va à Gina, on va à Gina, et bien on va à Gina, et on va à Gina. Mais seulement, les premiers temps, il me manquait mes commerçants. Quand j'allais au boucher, je lui disais, avec qui j'étais allé à l'école, Pétard de dit, mais comme tu coupes la viande? J'ai dit, moi, à Marseille, la viande, je la coupe comme ça, comme ça, comme ça. Ah, on n'est pas à Marseille, je ne suis pas contente, retourne à Marseille. J'ai dit, écoute, à Marseille, on avait une viande tendre, ici, on a une viande dure, parce que tu ne sais pas la couper.
Vous avez appris le provençal?
Oui, j'ai appris, on parlait provençal avant.
Ah, vous parliez provençal?
On parlait provençal, mais il ne parlait que provençal, mes oncles et tantes.
Il parlait que provençal?
Oui, il parlait français aussi, mais entre eux, ils parlaient beaucoup provençal, ça fait que... Je savais parler le provençal, je le savais bien. Je savais bien le parler, bien le lire, mais par contre, les fautes d'orthographe, l'orthographe provençal, c'est un peu particulier. Hein, il faut l'apprendre, il faut... Mais enfin, le traduire et le parler, ça va, j'ai pas de problème. Mieux que les gens qui sont pas d'ici, qui se sont inscrits. Il y a des Parisiens peu chers, qui n'ont jamais entendu provençal. Pour eux, c'est dur. Alors, les trois ou quatre qu'on est du village... Pour nous, c'est facile. Alors, ça, c'est un poème que j'avais fait pour mes oncles et tantes. Père Vautre, Tantine Rose, Tonteuil Marcel et Perrine Léonce. R. Loutoun, 1939, la guerre venait d'esclater. Loutokosan, lugubre, avait résonné. Et force malure annonciable. Pécaire, une clare, à son tour, à Viesuna. Erre père une jouine marre qui venait de Sanana. Leysan, quatre pichons enfants, que vous sort crudeu picave.
Arlette est une rencontre qui ne laisse pas intacte. Cet échange nous a tant appris sur la vie en Provence il y a 80 ans. Elle nous a montré un autre visage de la guerre, de l'enfance, du travail et de l'amour. Avec le soleil dans la voix, elle nous a raconté une France inconnue. Aujourd'hui encore, quand j'écoute cet enregistrement, j'ai un sourire béat, tellement l'écouter est un cadeau.
Je pense que j'ai fait ce que j'ai pu maintenant. Mes enfants, j'ai essayé de les élever le mieux que j'ai pu. J'espère que j'ai réussi.
Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Debois et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout allez-y. Trouvez-nous sur les réseaux @mamiepodcast et par mail à bonjour@mamiedanslesorties.co. À bientôt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.